qu'il y a du nouveau dans votre supermarché Dia.
Oh, du foie gras ?
Oui, du bon foie gras pour Noël. Parce qu'en ce moment, chez Dia, pour l'achat d'un bloc de foie gras du Sud-Ouest, la Berry, le deuxième est offert.
Est-ce qu'après, on aura le bel accent du Sud-Ouest ?
On a encore plus de raisons d'aller chez Dia. Au rayon frais, 200 grammes, origine France. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Gertrude Bell, archéologue, aventurière, agent secret, c'est le titre de l'ouvrage de Christelle Mouchard que vient de publier aux éditions Talendier, pardon. Franck Ferrand nous en parle aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Qui se rappelle aujourd'hui que les frontières de l'Irak ont été tracées par une femme? Cette femme était une de ces voyageuses intrépides qui, au début du XXe siècle, vous savez, écumait les continents. En l'occurrence, elle a joué un rôle très particulier, très intéressant. Elle était l'amie de Laurence d'Arabie, par exemple. Je vous propose de faire mieux connaissance avec elle cet après-midi.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Laurent qui se demande comment on calculait les dates avant Jésus-Christ.
Ah ben voilà une question très historique, mais après tout, ça mérite effectivement de... C'est une question qui mérite d'être posée. Pour le moment, nous suivons Gertrude Bell lors de sa toute première expédition, en tout cas lors de son tout premier voyage.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il est coutume de dire des femmes qui voyagent, qu'elles fuient, nous dit Christelle Mouchard dans son ouvrage sur Gertrude Bell. Elles partent pour éviter le face-à-face avec elles-mêmes, pour ne pas réfléchir sur les occasions manquées, le passé, la solitude. Gertrude Bell est en cela un vrai cas d'école. Les symptômes sont si évidents et le diagnostic si facile, nous dit-elle. Vraiment, elle ne tient pas en place. Et c'est vrai qu'il faut l'imaginer, cette Gertrude, parmi ces Anglaises, légèrement, juste un toute petite pointe d'excentricité, puis surtout un appétit de découverte extraordinaire. On est à la fin de l'époque victorienne. Ces femmes sont curieuses, elles veulent découvrir le monde. Elle n'a qu'une vingtaine d'années. Elle se passionne pour les voyages. Alors évidemment, quand on voyage à l'anglaise, si je puis dire, à cette époque, généralement on prend beaucoup de précautions, on s'entoure d'un certain luxe. On verra que c'est le cas de Gertrude Bell, bien entendu, mais il y a chez elle l'âme d'une aventurière, mais aussi d'ailleurs d'une archéologue et même d'une diplomate. C'est ce qui la rend tellement intéressante sur un plan historique. L'expédition de 1900 que je vais vous raconter maintenant est la première des six grandes expéditions qu'elle aura menées jusqu'en 1914. On la surnommera plus tard la reine du désert, et c'est vrai qu'elle montrera une incroyable résistance, un esprit intrépide, la volonté d'aller toujours plus loin et de comprendre non seulement les pays mais les populations qu'elle est amenée à découvrir. Pour le moment, nous sommes à la veille du tournant du siècle. On est à la fin de 1899 et Gertrude, son vrai nom c'est Gertrude Margaret Lothian Bell. Elle a 31 ans, elle est belle, riche, intelligente. Elle décide de rejoindre Fritz et Nina Rosen, un couple franco-allemand. En fait, elle les a rencontrés 8 ans plus tôt, en 1892, lors du tout premier voyage qu'elle avait fait. Elle était en Perse à l'époque, à Téhéran, et ce couple l'avait guidée dans sa découverte de l'Orient. C'est ce voyage qui lui avait d'ailleurs donné l'envie de découvrir comme cela les continents, et notamment plus spécifiquement l'Orient. Elle a écrit sous le titre de Safarnameh Persian Pictures une série de récits sur son séjour. En 97, elle publie sa traduction des poèmes de Hafez et à partir de là, elle va donc enchaîner les voyages. Est-ce que c'est pour éviter une certaine, pour oublier même une certaine solitude sentimentale? C'est une des questions que je poserai tout à l'heure à sa biographe. Entre 93 et 99, elle est quand même partie pour la Suisse. Elle a visité les Alpes, etc. Elle a d'ailleurs fait des expériences d'alpinisme. Elle s'est rendue en Italie du Nord à 2 reprises, à Venise, à Florence, en Allemagne, 3 fois en Allemagne. Elle a visité la Grèce, elle est allée jusqu'à Constantinople. Elle a même connu l'Algérie aux côtés de son père et fait un tour du monde avec son frère Maurice. Elle a la bougeotte, cette Gertrude. Les voyages, dit-elle, lui font beaucoup de bien. Il y a du bon à partir au loin, écrit-elle. Cela vous arrête tout net et vous permet de faire l'inventaire de votre vie. Mais quand on l'a fait, on ne sent que mieux à quel point on est fou de laisser tout ça derrière. C'est vrai que quand on a pris goût à cette espèce de vie tellement mouvementée, tellement neuve, qui va être la sienne désormais, il est difficile de faire machine arrière, ça n'est même pas possible, tout simplement. Elle écrit beaucoup, hein. Elle note, vous savez, à l'époque on fait des aquarelles, elle fait surtout des lettres, elle prend des notes pour des récits, elle fait des photos également. Elle se renseigne sur les cultures, sur tout ce qu'on peut trouver de beau, d'étonnant, de pittoresque. N'oubliez pas qu'elle est anglaise, bien sûr. Elle fait partie de ces voyageuses victoriennes tout à l'heure. C'est une globe-trotteuse d'une certaine manière. Elle a beau voyager, elle garde ses habitudes toutes britanniques du reste. Hein. Elle est toujours très élégante, à la dernière mode. Il faut imaginer la somme de bagages qu'elle trimballe derrière elle, y compris d'ailleurs tout son nécessaire à correspondance. Un grand portefeuille de cuir avec un encrier, un porte-plume à réservoir et crayon intégré, du papier à lettres, du buvard, des cartes de visite. Elle est toujours très équipée, si je puis dire. On ne la prend pas facilement au dépourvu, cette Gertrude. Le 29 novembre 1899, toujours avec toutes ses bagages, elle quitte donc Londres. Alors elle passe par Avignon, puis Marseille. Elle n'aime pas Marseille d'ailleurs, sauf la vue qu'on a de Notre-Dame de la Garde, dit-elle, de la Bonne Mère. Et le 1er décembre, la voilà en Corse, où elle retrouve un professeur de Cambridge avec son épouse et sa fille. Le temps est magnifique, comme au mois de mai, dit-elle dans son journal intime. On est le 1er décembre, hein. Ça nous fait penser à cette année, à notre année 2015. Elle va retrouver à bord du bateau un certain nombre d'Australiens. Alors elle fait étape en Grèce, puis elle arrive en Turquie où elle visite la mosquée d'Isabée à Ayasoluk. Elle découvre des ruines de temples romains, etc. On est vraiment dans ce goût très prononcé que la bonne société britannique de l'époque peut avoir de ce qu'il y a de saillant, de fort, d'un peu étrange, de dépaysant dans les contrées qu'elle se met à traverser. On voit par exemple Gertrude courir les bazars pour chercher les meilleurs loukoums, pour boire du café turc, bien entendu. Et puis quand on l'a bu, le café turc, évidemment on fait tourner le marc pour essayer ensuite de deviner son avenir. Tout ça va très vite puisqu'on n'est que le 7 décembre lorsqu'elle embarque à bord du Rossia, navire important. Elle décrit le capitaine, d'ailleurs elle nous dit « C'est un vieil oiseau joyeux, gros, avec des yeux de cochon. » On a l'impression de le voir, ce bonhomme. À bord du navire ont embarqué un Américain, des Russes, pour une traversée difficile parce que la mer est sauvage à cette époque. Et le 10, on aperçoit la chaîne du mont Liban avec ses sommets enneigés, visibles depuis la mer. Le Liban, les échelles du Levant, tout ça, c'est ce qui fait rêver les Anglaises, bien entendu. Il n'y a pas que les Anglaises, d'ailleurs. Visiter le krach des Chevaliers, je crois que c'est une des plus belles expériences qu'on puisse faire lorsqu'on est visiteur, lorsqu'on est touriste. Hélas, nous savons bien aujourd'hui que c'est devenu très difficile, pour ne pas dire même impossible. Tout ça est plongé en pleine guerre aujourd'hui. Le 12, les Rosen retrouvent Gertrude, elle prend le train, elle traverse la plaine de Charonne, prend le thé avec des biscuits et des oranges. Aux alentours de 17h, c'est la vision, c'est l'arrivée dans la terre promise au sens propre, c'est Jérusalem et l'aventure peut commencer.
extrait du thème de Laurence d'Arabie par Maurice Jarre. Nous vous retrouvons, Franck Ferrand, dans un instant pour la suite de votre récit sur l'expédition de l'aventurière Gertrude Bell.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous poursuivons avec vous, Franck Ferrand, le voyage, l'expédition de la fascinante Gertrude Bell.
Ah oui, alors on a l'impression, vous savez, comme ces touristes anglaises de la Belle Époque, on a l'impression qu'elle passe son temps à prendre le thé quand on lit ces... D'abord, je pense que c'est pas une impression, c'est une vérité. Tout ça dans de très jolis hôtels, dans des patios verdoyants. Il faut imaginer les oliviers, les citronniers de la vallée du Jourdain, puisqu'elle est maintenant en Terre Sainte. Dans son journal intime, elle écrit qu'elle cueille des jacinthes, des cyclamens, des anémones. Elle aime les renoncules jaunes et rouges, les orchidées, les chardons, les roses, enfin tout ça est magnifique. On est dans une Jérusalem qui, à l'époque, bien sûr, est encore ottomane. Tout est gouverné depuis Constantinople, mais enfin mollement gouverné, car l'homme malade de l'Europe, comme on appelle à l'époque l'Empire ottoman, n'est pas au plus beau de sa splendeur, au plus fort de sa splendeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Gertrude Bell est très occupée à Jérusalem. D'abord, elle visite la ville et ses environs, à cheval ou à pied, peu importe, toutes les manières possibles. Elle va visiter le tombeau de Lazare à Béthanie, on la retrouve à Bethléem, à la mosquée d'Omar. Elle écume littéralement les quartiers catholiques et juifs. Le 22 décembre, elle visite le dôme du Rocher et elle est complètement subjuguée par les mosaïques. Elle se rend aussi au mur des Lamentations, bien entendu. Le 24 décembre, ce sont les fêtes de Noël, donc elle assiste à la messe à la basilique de la Nativité de Bethléem. Elle sera deux jours plus tard au mont Golgotha. Elle s'en va ensuite à Jéricho. On la retrouvera au mois de mars à la synagogue pour les célébrations de la fête de Pourim. Vous savez, la fête juive qui célèbre la délivrance des juifs de Perse. Elle effectue la plupart de ses excursions avec la sœur de Nina Rosen. Vous savez, la sœur de cette femme qu'elle avait rencontrée autrefois en Perse et qui s'appelle Charlotte. On les imagine émerveillées pour un rien, battant des... Je les présente un peu comme deux oies blanches, mais enfin, il y a un petit peu de ça quand même. Elles battent des mains devant les beautés de l'Orient qui s'offrent comme cela à elles. Avec la volonté néanmoins, c'est ce qui me paraît le plus intéressant, la volonté de... comprendre la culture, bien entendu, arabe. D'ailleurs, elle va prendre des cours d'arabe classiques avec un professeur de l'université. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Et très vite, elle va prendre des cours d'arabe populaire. L'arabe tel qu'on le parle. Ça, c'est plus intéressant, c'est plus efficace. C'est une jeune femme syrienne qui lui donne chaque soir des cours. Et puis, elle s'intéresse à la culture juive. Elle est constamment dans ses livres. Alors, des petits bouquins de voyage, mais des livres qu'on trouve sur place, etc. Elle écrit beaucoup, je vous l'ai dit. Elle écrit beaucoup de lettres. Et enfin, le 20 mars 1900, eh bien, elle va prendre le chemin de Petra. C'est le but de l'expédition, si je puis dire. Elle quitte donc Jérusalem, ce 20 mars 1900. Voilà ce qu'elle écrit. « À 6h, tout était prêt pour le départ. Maintenant, nos chevaux et nos mules sont entravés et pansés. » Anna, c'est le cuisinier, m'a apporté une excellente tasse de thé. Ah ben voilà, il y avait longtemps. Nous sommes au milieu des Arabilka, plus particulièrement des Ghanimat, une tribu que Anna appelle le père des troupeaux. N'est-ce pas une bonne blague que je sois obligé de parler arabe? Nous avons vu un grand nombre de cigognes aujourd'hui, dit-elle. Il y a quand même une forme de naïveté dans l'approche que cette Anglaise, encore jeune, et qui voyage véritablement, en tout cas à cette échelle-là pour la première fois, dans la façon dont elle décrit ce qu'elle découvre. Ça va changer. Elle va devenir bientôt une experte de l'Orient, et un jour, on ne lui en remontrera pas sur la question. Gertrude a un petit cheval, c'est bien pratique, un petit cheval de couleur baie, vous savez, c'est-à-dire qu'il a la robe fauve et les crins sombres. Il est plutôt joli et fier de l'être, dit-elle, mais solide. Il coûte 40 livres, c'est-à-dire une fortune, entre nous soit dit, et puis il est de bonne souche et je ne risque pas d'y perdre quand je le revendrai. Gertrude a aussi tout son matériel de campement, une tente, un véritable édifice de toile avec un grand auban, toute une structure métallique. C'est quand même des matériaux lourds, bien entendu. Les montants sont très encombrants. On voyage sous la tente avec tout son mobilier, hein, donc un mobilier volumineux. Ce qui veut dire qu'il faut, quand on se déplace, des mules avec les muletiers qui vont avec, bien entendu. Une tente pour le cuisinier, une autre pour le maître d'hôtel. Enfin, c'est pas non plus, ce n'est pas le voyage du routard, bien entendu. Elle emprunte des routes qui sont bien connues des touristes de cette époque, avec un guide, bien entendu, avec une escorte, parce que, je vous l'ai dit, ce sont des territoires qui, à l'époque, sont sous contrôle ottoman, mais un contrôle un peu hésitant, et il y a intérêt à avoir une bonne escorte. Elle traverse des plaines désertiques, on aperçoit au fond, comme ça, comme une sorte de toile derrière fond, les monts de Judée. Elle passe par des ruines et des... Elle a une vraie prédilection pour les ruines antiques occidentales, notamment les colonnes romaines, etc. Ses jambes sont protégées par des espèces de culottes spéciales qui sont enroulées autour de deux fourches masquées par les plis multiples de cette jupe d'Amazone qu'elle a, mais il lui arrive du reste d'utiliser une selle pour homme, hein, elle n'est pas toujours en Amazone. Le 23 mars, après 2 heures de train, parce qu'on utilise aussi le train quand il y en a, elle arrive au canyon de Wadi Mujib. Et là, on va pouvoir se baigner dans la rivière. C'est une oasis avec ses figuiers, avec de nouveau des oliviers. Ça fait rêver, bien entendu. On a vraiment envie d'être avec elle dans tous ces sites remarquables, notamment en Jordanie. Elle va visiter Madaba. Elle visite le temple de Mashnaka avec les stèles funéraires qui sont carrément sculptées dans la roche et qui font partie des véritables merveilles de l'Orient. Voici ce qu'écrit Gertrude le 25 mars. Je campe au-dessous d'un grand fort, le Krak de Moab. J'ai photographié les lieux et j'y suis revenu déterminé à visiter le fort. On m'a dit que je n'aurais pas la permission car l'endroit sert de caserne aux soldats turcs. Aussi n'en ai-je pas demandé. J'ai pris Anna, donc toujours l'espèce de cuisinier, avec moi et je suis entré dedans très calmement, salué poliment par les soldats que je croisais et qui m'ont fait faire le tour des lieux. On a l'impression que c'est idyllique, que c'est facile comme tout. C'est pas tout à fait la vérité quand même. Hein. Il faut imaginer les mouches, les moustiques tous les soirs dans les tentes. On a des moustiquaires, mais enfin tout de même. Le temps est très changeant. Certains jours, il y a un vent qui soulève le sable. D'autres jours, il pleut incroyablement. Bref, ne nous attardons pas sur ces petits détails et ces petits impedimenta de la route. La vérité, c'est que les sites que découvre, et elle est une des premières occidentales à le faire, les sites que découvre Gertrude sont à couper le souffle, à commencer bien sûr par celui de Petra.
Gertrude Bell, aventurière et une femme aux multiples facettes, est au cœur de l'histoire aujourd'hui et nous la découvrons avec vous, Franck Ferrand. Et vous le savez, vous pouvez laisser vos messages via Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook de l'émission. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, sur l'expédition de Gertrude Bell, notre incroyable aventurière à l'honneur aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire.
Et oui, elle est à Petra, vous savez, ce site extraordinaire. Elle visite le Kaznet, ce bâtiment haut de 43 mètres qui a été sculpté dans le grès rose, qui est sans doute une des plus belles choses qu'on puisse voir sur la Terre. Elle prend des photos incroyables. Elle cherche aussi toujours les traces des civilisations gréco-romaines qu'elle connaît mieux que les autres. Alors, après cette excursion, si je puis dire, elle revient à Jérusalem où elle reprend ses habitudes, les leçons d'arabe, les visites, le thé, toujours bien entendu. Elle assiste à la cérémonie du dimanche des rameaux, une très belle cérémonie, écrit-elle le 8 avril. Et puis, quelques jours plus tard, le 13, à la fête de Nabi Moussa, le jour où les musulmans qui viennent de la tombe présumée de Moïse sur la route de Jéricho entrent dans la vieille ville de Jérusalem. Toutes les traditions et toutes les religions l'intéressent. Des groupes de gens avec des drapeaux qui dansent comme des maniaques viennent de différents villages, écrit-elle. Un drapeau vert est précédé de 4 drapeaux verts et jaunes portés par des hommes sur des chevaux. Mais que tout ça est pittoresque, on a envie de dire oui, enfin bon... Eh oui, mais Gertrude Bell ne serait pas passée à la postérité si elle s'en était tenue là. Autre chose l'anime, autre chose l'attire, et elle forme désormais le projet d'aller carrément dans le Djebel Druze. Là, on est dans un massif montagneux assez éloigné de toutes les routes touristiques. C'est vrai que 70 ans plus tôt, la célèbre Lady Esther Stanhope était venue dans le Djebel, qu'elle y avait d'ailleurs vécu, dans une espèce de forteresse. Mais ça reste quand même une aventure incroyable. Le 26 avril, Gertrude est à Amman, donc on est toujours en Jordanie, elle visite toujours les ruines. Alors on lui a volé sa cravache, c'est un enfant qui lui a volé sa cravache, elle le retrouve, elle lui tire les oreilles et récupère sa cravache. Bref, tout ça a l'air bon enfant. Pour aller dans le Djebel Druze, elle s'est fait tailler sur mesure une tenue dont l'ampleur et la coupe, qui inclut un pan de tissu destiné à masquer entièrement la division de la jupe culotte, tout ça lui permet de rester à la fois élégante, ça compte pour elle, et décente dans les régions où elle va maintenant, c'est plus que nécessaire. C'est la première fois que je suis assise à mon aise sur un cheval, écrit-elle d'ailleurs. Je pars demain matin à l'aube comme une flèche, écrit-elle le 29 avril. Une fois dans le pays Druze, je bougerai rapidement. Il sera difficile aux Turcs de m'attraper car ils ont horriblement peur des Druzes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle va les rencontrer, les Druzes, bien entendu. Elle va établir avec eux, mieux qu'un contact, un véritable dialogue. Et elle rencontre le chef Yahya Beg, un homme de belle taille, de 40 à 50 ans, très beau et d'une courtoisie exquise, écrit-elle. Et ça, c'est très intéressant politiquement car les Druzes sont à la recherche d'alliés contre Constantinople, contre l'Empire ottoman, à l'époque contre Istanbul, devrais-je dire, et elle leur laisse entendre que l'Angleterre pourrait être une puissance alliée. Nous avons bu du café ensemble et puis quelqu'un a suggéré que je prenne le Beg en photo, à ma grande joie, écrit-elle. Et je l'ai fait poser dans sa véranda et il avait une allure vraiment splendide. Toujours la petite pointe de naïveté néanmoins, feinte ou réelle, à vous de juger, elle va rester 10 jours. Dans le Djebel, sa dernière vision, si je puis dire, ce sera Palmyre. Et ça nous émeut toujours, nous, bien entendu. Elle va voir les splendeurs de cette Palmyre aujourd'hui tellement maltraitée. Elle écrit le 20 mai 1900. « Finalement, nous nous dressâmes au bout du col pour dominer Palmyre du regard. Je me demande si le vaste monde présente un paysage plus singulier. C'est une masse de colonnes alignées en longues avenues, regroupées en temple, effondré dans le sable ou pointant au long doigt, un long doigt solitaire vers le ciel, écrit-elle, comme on aimerait que ce soit encore le cas. Et puis en juin 1900, la voilà de retour au Liban. Du Liban, elle redescend un petit peu plus au sud. Elle quitte Jérusalem le 14 juin. Elle quitte en même temps l'Orient, mais elle sait, elle en est absolument certaine, qu'elle reviendra. Bonjour Christelle Mouchard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ça c'était les tout débuts de Gertrude Bell dans le voyage. Elle va en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres des voyages.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous explorons maintenant la vie, le destin de l'aventurière et agent secret Gertrude Bell avec vous Franck Ferrand et avec votre invitée Christelle Mouchard, auteur entre autres de Gertrude Bell, archéologue, aventurière et agent secret, une biographie de Gertrude Bell aux éditions Talendier et parue en octobre dernier.
Oui, et c'est une biographie qui présente beaucoup d'intérêt psychologique. On est vraiment avec le personnage. Et si vous le voulez bien, Christelle Mouchard, tout à l'heure, on reviendra sur la psychologie, sur la nature intime, si je puis dire, de cette Gertrude Bell, sur ses origines aussi, et sur les circonstances qui lui ont permis aussi de mener cette vie tellement différente de celle de ses contemporaines. Avant cela, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que nous prenions la mesure de l'importance, j'allais dire historique, en tout cas de l'importance politique de ce personnage. Dès le voyage de 1900, la voilà dans le Djebel Druze et l'on peut la considérer, je sais pas si elle l'a fait vraiment exprès à l'époque, mais elle est déjà un agent d'influence britannique.
Il faut effectivement se poser la question, et vous avez très bien fait de souligner ce double personnage que déjà elle présente à l'époque, celui d'une Anglaise un peu extravagante,
oui,
une grande touriste de luxe, avec des détails sur lesquels elle insiste volontairement et tant et plus cette fausse légèreté. On a vraiment l'impression que le voyage dans le Djebel Druze, elle est allée pour faire un pique-nique au Yorkshire et qu'elle a pris effectivement le thé avec Yahad Beg, qui est quand même le chef du peuple druze qui effectivement
voilà.
En révolte quand même.
Sont les résistants contre l'Empire ottoman.
Mais ce n'est pas en lisant ces lettres qu'on peut comprendre l'épaisseur du voyage.
Alors est-ce qu'elle a été envoyée là ou est-ce que c'est sa curiosité qui seule l'y a attirée?
C'est le grand mystère de Gertrude Bell. On le retrouvera toute sa carrière parce que encore une fois, si on la lit, non, c'est elle a décidé comme ça d'aller faire un petit séjour dans le Djebel Druze, qui est quand même une zone assez dangereuse. Mais quand on sait quelles sont ses connaissances, qui sont ses amis, quelles sont ses compétences,
elle a quand même de très hautes
oui, elle a des relations, des relations très bien placées,
y compris au Foreign Office, c'est-à-dire au ministère des Affaires étrangères britannique,
et dans toutes les ambassades du Moyen-Orient. par sa famille et aussi par, par relation. À cause de ses études aussi, mais je pense qu'on y reviendra
tout à l'heure.
Et elle est effectivement, elle est faite, tout en elle s'intéresse à ce qui se passe au Moyen-Orient, pas seulement pour les petites fleurs et les ruines.
Hein. Oui. Les ruines jouent un rôle important et l'on sait à quel point l'archéologie a servi, sinon toujours de couverture, en tout cas de prétexte à un certain nombre d'agents d'influence et de renseignement à toutes les époques. C'est-à-dire que quand vous vous rencontrez un archéologue dans certaines régions du monde, vous pouvez toujours vous demander si derrière l'archéologue ne se cache pas un agent quand même.
Alors, je ne me prononcerai pas sur l'époque actuelle, mais à cette époque-là, c'est évident.
Oui, c'est bien évident. Sûr. Et c'est vrai qu'elle a un intérêt naturel et réel pour les ruines hein, quand même.
Pour les ruines, de toute façon, oui, elle est passionnée d'histoire ancienne, mais elle est encore plus passionnée d'histoire contemporaine.
Et ça, c'est assez étonnant, c'est qu'on découvre derrière l'archéologue une sorte d'ethnologue, si je puis dire. Un peu ethnologue sauvage, mais tout de même très intéressé par les populations, leur culture, leur langage, leurs mœurs. On a l'impression que c'est même ce qui l'anime le plus, ça, dans la vie et dans les voyages.
La clé de son caractère, c'est la curiosité. Comme beaucoup de voyageuses d'ailleurs. Et effectivement, elle observe, elle ne cesse d'observer. Mais je pense qu'il ne faut pas la voir quand même comme une ancêtre de, enfin une première de l'ethnologie. C'est quand même surtout les relations diplomatiques qui l'intéressent. C'est vraiment les liens entre les peuples, entre les chefs et les étrangers, etc. Et c'est ça le fil conducteur de toutes ces aventures.
Or, on est à une époque où cette région du monde, ça n'a pas tellement changé d'ailleurs, c'est vraiment le nœud, le cœur hein, de la diplomatie mondiale,
toujours.
Ce Moyen-Orient, mais ce Proche-Orient. Mais en l'occurrence, on est à une époque, dans la préparation de la Première Guerre mondiale, dans une époque où ça joue un rôle absolument essentiel et déterminant. Il y a un autre grand personnage dont on ne peut pas faire l'économie ici, c'est évidemment Lawrence d'Arabie, qu'elle connaît très bien du reste.
Elle connaît très bien, qu'elle rencontre pour la première fois au cours de ses expéditions. Elle est plus âgée que lui, elle a 10 ans de plus que lui. Et quand elle le rencontre, c'est elle, la grande dame du Moyen-Orient. Hein. C'est le grand voyageur, c'est la dame du désert, la Khatoun, la dame. Et quand elle le rencontre, lui, c'est un petit jeune homme de 23 ans qui est un débutant en archéologie et probablement aussi un débutant dans les métiers d'observation divers.
C'est un petit jeune homme de 23 ans qui n'aime pas les dames, il faut le dire. Alors comment expliquer cette amitié avec Gertrude Bell?
C'est très surprenant parce qu'effectivement, c'est quand même un misogyne. Il n'aime pas les femmes et surtout il n'aime pas les femmes intellectuelles.
Hein. Encore moins.
Oui. Mais il y a eu une complicité d'emblée qui s'est installée. Il a tout de suite reconnu en elle une femme supérieurement intelligente qui d'abord parlait arabe et qui comprenait les peuples arabes magnifiquement. Et en plus il y a autre chose qui s'est installée au fil des conversations qu'ils ont eues ensemble. Ce sont deux désespérés. En fait, hein, ça, c'est une autre facette du caractère de Gertrude Bell sous ses aspects de grande dame légère. Et ils ont tous les deux une fascination pour la mort que le film Lawrence d'Arabie montre très très bien. Et on peut retrouver cette même fascination pour la mort chez Gertrude Bell. Hein,
et chez toute une génération, entre nous soit dit, surtout
aussi,
chez les Britanniques de l'époque.
Chez les Britanniques, les aventuriers britanniques de cette époque.
Dans le post-romantisme un peu décadent de cette époque, oui. Forcément. Alors, elle s'intéresse beaucoup à la géographie. Il ne faut pas oublier qu'elle fait des relevés, notamment.
Elle est cartographe aussi. Elle est cartographe, oui. Et parmi tous ses talents, elle a aussi la cartographie, topographie.
Il n'y a pas beaucoup de topographes et de géographes qui peuvent se vanter d'avoir carrément tracé les frontières d'un État. Elle, c'est ce qu'elle finira par faire.
C'est ce qu'elle finira par faire à la fin de la guerre.
Hein. Oui, alors bien sûr. Expliquez-nous en quelques mots ce qui s'est passé là. C'est quand même inouï.
Alors bon, il faut voir l'Empire ottoman à cette époque-là. Tout le monde sait qu'il va s'effondrer.
Parce qu'il est allié des Allemands, hein.
En plus, on essaye, avant la guerre, les grandes puissances essayent de le maintenir intact, justement par peur de savoir qui va prendre les dépouilles.
Eh oui.
Mais la guerre
est
déclarée.
C'est plein de résonance avec notre époque actuelle.
La guerre est déclarée et l'Empire ottoman se bat aux côtés des Allemands. Et de ce fait, tout le monde sait que l'Empire ottoman est terminé et on commence à placer ses pions. Mais chacun ne place pas les mêmes pions pour l'après-guerre. Et chacun fait des promesses aussi, rêve sur ce que va devenir le Moyen-Orient. Et donc Gertrude Bell se retrouve avec Lawrence d'Arabie dans la situation qu'on voit dans le film, c'est-à-dire à soutenir la révolte, ce qu'on a appelé la grande révolte arabe de la dynastie hachémite celle qui, mm-hmm. Qui est représentée dans le film, pour contre l'Empire ottoman aux côtés des Anglais. Et
semer la pagaille pour récolter les fruits, c'est la grande tradition de la diplomatie britannique à travers les siècles, hein, il faut
alors,
le dire.
Alors, dans ce cas-là, c'est vrai, mais dans ce cas-là, je ne suis pas sûre qu'ils aient fait ça totalement sciemment, parce que dans le même temps, d'autres Anglais signaient avec les Français ce qu'on a appelé les accords Sykes-Picot, qui partageaient le Moyen-Orient entre la France et l'Angleterre, ce que les Hachémites ne savaient pas.
Un gentleman agreement.
Exactement. Hein. Et dans le même temps, ou peu après, la déclaration Balfour promettait la Palestine aux sionistes, et dans le même temps, l'Empire des Indes britannique rêvait d'étendre la colonie sur tout le Moyen-Orient.
Ça s'appelle ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Voilà, et il en est résulté, évidemment, en 1919, quelque chose d'absolument ingérable, de très compliqué, et qu'il a fallu plusieurs années pour essayer de nettoyer, de remettre d'aplomb, et c'est là qu'est intervenu Gertrude Bell.
Il y aura la célèbre conférence du Caire. Ça, on apprend ça au lycée, hein, 1921. Ouais. C'est fondamental. Là, on définit les frontières de ce qui va devenir le nouveau Moyen-Orient, d'une certaine manière.
Voilà. Alors, comme Gertrude Bell était de ceux qui voulaient favoriser la naissance d'un État arabe, enfin, de plusieurs États arabes, et comme d'autre part, avec Laurence d'Arabie, ils avaient promis à la dynastie hachémite qu'ils auraient un État arabe, ils se sont trouvés effectivement à conseiller Churchill pour le tracé des frontières de l'Irak, et c'est Gertrude elle-même qui a été chargée de mettre le roi Faisal sur le trône d'Irak.
Je trouve quand même qu'on est un peu loin du thé, des loukoums et des petites aquarelles.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et avec vous, Franck Ferrand, nous poursuivons l'exploration de la vie de la fascinante aventurière et agent secret Gertrude Bell, et aussi avec votre invitée Christelle Mouchard, auteure de Gertrude Bell, archéologue, aventurière et agent secret aux éditions Talendier.
Je crois qu'un film est en préparation d'ailleurs sur le personnage. On va bientôt nous parler d'elle, Christelle Mouchard.
Oui, effectivement, le grand cinéaste Werner Herzog a terminé son film avec Nicole Kidman dans le rôle de Gertrude Bell.
Queen of the Desert.
Voilà, c'est ça, qui devrait sortir aux États-Unis de façon imminente, mais je n'ai pas de date.
Nicole Kidman, elle lui ressemble ou elle idéalise le personnage ?
C'est un peu difficile, j'attends de la voir en fait, et puis je suis mal placée pour le dire, je la connais trop bien pour être juge.
Vous parlez de Nicole Kidman, nous avons bien sûr. Hein. Alors, s'il fallait résumer la personnalité, je vais le faire un peu à l'emporte-pièce, je vous demande déjà de m'en excuser, mais je dirais qu'elle était très riche, très intelligente et très coincée. Et d'abord, très riche, elle est de très bonne famille. Hein, faut
tout
dire
à fait, c'est la sixième fortune d'Angleterre.
Hein, oui, donc, les choses sont dites.
Voilà.
À une époque où les grandes fortunes d'Angleterre étaient les plus grandes
énormes.
Fortunes du monde, tout
voilà,
simplement.
Hein. Tout simplement, effectivement. On peut dire qu'à sa naissance, les bonnes fées qui se sont penchées sur son berceau étaient très nombreuses.
Oui.
Et effectivement, non seulement elle était très riche, mais en plus elle était belle. Hein. Les photos en attestent. Et effectivement, c'était une rousse flamboyante avec un teint de lait, un visage très racé. Elle avait la taille bien prise et elle, en plus elle excellait dans tout. Alors elle excellait dans tous les sports et en plus elle était surdouée quand même, il faut bien le dire.
Oui, elle était très intelligente, on y vient dans un instant. Est-ce que le fait d'avoir perdu sa mère très jeune, elle avait 3 ans,
effectivement.
Est-ce que ça a joué un rôle
Ça a joué un rôle en ce qu'elle est restée pendant 5 ans après cela face à face avec son père en fait qui l'idolâtrait et qui l'a idolâtré toute sa vie. Et c'est grâce à ça qu'on a une correspondance absolument extraordinaire entre ces deux personnages exceptionnels. Et effectivement, jusqu'au remariage de son père, c'est une période qui a joué beaucoup dans ce qu'il y a d'impressionnant dans son personnage de surdoué.
Elle s'entend bien avec sa belle-mère, cela dit.
Voilà, elle est aussi très complice avec sa belle-mère, qui lui a légué tous les principes victoriens.
On est dans Downton Abbey, là, pour
tout
le coup.
Tout à fait, hein. vraiment. Hein, c'est Lady Mary. mairie et la grand-mère, la mère du comte. On est à cheval entre les deux personnages véritablement. Et cette jeunesse se passe dans des circonstances idéales, avec quand même cette déchirure, cette blessure de la mort de la mère, hein, qui est toujours présente. Mais quand même, la jeunesse de Gertrude se passe dans des conditions extraordinaires. Elle est dans un grand château. Elle est couvée, on va dire, par cette belle-mère qui a des exigences très importantes du point de vue culturel. Donc elle apprend tout de suite le français, l'allemand, et elle ne cessera d'ailleurs d'apprendre sans arrêt de nouvelles disciplines et en même temps des disciplines sportives de plus en plus extrêmes.
Ce destin tout à fait hors du commun qui fera d'elle la reine du désert et d'une certaine manière la mère de l'Irak n'est pas venu par hasard. C'est-à-dire qu'elle est née au sommet de la société la plus puissante de son temps et une des plus puissantes qui ait jamais existé d'ailleurs dans l'histoire humaine. Elle a tout à sa disposition d'une certaine manière et en même temps elle est trop intelligente pour devenir une simple lady de l'aristocratie britannique. Car quand vous avez dit tout à l'heure qu'elle était surdouée, le mot n'est pas trop fort. Elle a des dons, des aptitudes qui sont tout à fait au-dessus de ses semblables.
Oui, tout à fait. Vous disiez tout à l'heure, elle apprend l'arabe. Mais avant d'apprendre l'arabe, elle a appris le persan, elle a appris le ourdou, elle a appris l'hindi, elle savait déjà le français, l'allemand, elle connaît évidemment l'italien. En plus, elle est une des premières femmes à être entrée à Oxford, qu'elle a fait en 2 ans au lieu de 3 ans. Et elle a obtenu son diplôme avec une mention très bien en histoire moderne. Elle était la première étudiante, garçon et fille confondus, à obtenir cette mention en histoire moderne. Donc ça donne la mesure du personnage.
Un petit côté crispant quand même. Hein.
Alors crispant parce qu'elle est trop intelligente. N'ayant pas
un peu un télo sur les bords.
Et n'ayant pas l'intelligence de cacher son intelligence, voilà, à une époque où c'était très mal toléré de la part des femmes. Elle était capable d'interpeller au cours d'un grand dîner un diplomate pour lui asséner qu'il n'avait pas compris l'esprit de l'État allemand, par exemple. Alors évidemment, ça jetait un froid.
Et alors vous ne vous attardez pas, vous, sur cet aspect-là, mais on dit qu'elle faisait un peu des conférences à tout propos.
Oui,
c'est-à-dire que quand, dans un dîner, ça n'était pas vraiment un échange, c'était des conférences de Gertrude, Lady Gertrude.
Les témoignages sont différents selon qu'elle crispait justement ou qu'elle fascinait. Et ceux qu'elle fascinait disaient d'elle qu'elle était capable de parler de n'importe quoi avec de l'humour tout de même. Hein, ce n'était pas...
Très gaie, toujours très joyeuse.
Elle était toujours très gaie, elle était capable de passer de la description d'une robe parce qu'elle était extrêmement coquette et ses lettres sont un véritable régal pour les gens qui aiment la mode de cette époque-là, parce qu'on a tous les détails de la moindre petite plume à la dentelle sur le bord des jupons. Et à côté de ça, elle allait expliquer ce qui se passait à Constantinople ou l'architecture d'un monastère du christianisme des premiers âges, et tout ça en un dîner. Donc c'était quelque chose de fascinant.
Alors... On peut imaginer qu'une femme qui, très tôt et lors de son premier vrai voyage, va s'installer dans le Djebel Druze, va faire la conquête des hommes les plus extraordinaires de son temps. Ça doit être une amante inouïe, non, que vous nous proposez ?
Peut-être l'aurait-elle été. Nous ne le saurons jamais parce que Gertrude était quand même une femme de l'âge victorien. Elle en acceptait tous les codes.
C'est le troisième terme de la trilogie, j'ai dit coincée tout à l'heure.
Oui, voilà, non, je dirais qu'elle était très victorienne. Mais avec une sensualité évidente, puisqu'elle apparaît dans ses lettres, parce qu'elle a quand même eu... j'ai envie de dire qu'elle a eu des amants, c'est-à-dire quand on écrit et quand on lit ses lettres, on pense que ce sont des amants, en fait, non.
Peut appeler au sens classique du mot des amoureux, en tout cas.
Des amoureux, voilà. Mais bon, je ne dois pas tout dévoiler de l'histoire.
Non, alors voilà, justement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de la sensibilité de cette Gertrude, qui est un cerveau, ça tout le monde l'a compris, mais que dire de son cœur, alors?
Alors, on va citer Laurence d'Arabie, qui est quand même le meilleur témoin, justement. Exactement. Il faut se rappeler qu'il était misogyne, mais de Gertrude Bell, il a dit que c'était une femme de cœur énorme et d'intelligence vertigineuse. Donc, il ne faut pas oublier, elle a dit qu'elle avait un cœur énorme.
Énorme. N'oublions pas cette dimension-là. Elle va mourir relativement jeune, à 57 ans. Vous pouvez nous raconter cette mort incroyable à Bagdad?
Alors, Gertrude se considère comme la première irakienne, puisque c'est elle qui a tracé les frontières, et elle ne veut pas quitter l'Irak. Elle s'est malade, elle a beaucoup fumé dans sa vie, c'était une de ses excentricités, et elle devrait rentrer en Angleterre pour se faire soigner. Elle refuse de rentrer en Angleterre. Il y a quelque chose qui s'est passé en Angleterre qui fait qu'elle a décidé qu'elle n'y retournerait jamais. Donc elle veut mourir à Bagdad. Mais mourir à Bagdad de la maladie de poitrine qu'elle a, ça veut dire beaucoup de souffrance, etc. Et bon, une nuit de 1926, elle n'a pas laissé de lettre, donc on ne le sait pas, mais tous ceux qui la connaissent bien sont d'accord pour penser qu'elle a pris une dose de barbiturique excessive volontairement. Et elle, effectivement, donc elle est morte pas tout à fait en pleine gloire, puisque déjà depuis 2-3 ans, le roi d'Irak n'avait plus vraiment besoin d'elle. Ça a dû certainement jouer aussi dans la décision.
Elle se sentait un peu reléguée, oui.
Elle se sentait un petit peu reléguée, elle se savait malade, et la grande exaltation qui avait suivi la guerre et l'installation de l'Irak est terminée. Donc elle a salué son public et elle est sortie.
Encore une grande aventurière que vous nous faites découvrir, Christelle Mouchard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Gertrude Bell, archéologue, aventurière, agent secret. Vous y allez fort dans le titre, même si vous nuancez ensuite largement cet aspect. Et ça a été publié chez Talendier. Merci beaucoup de nous avoir fait non seulement connaître ce personnage un peu maltraité et méconnu. On s'en est rendu compte tout à l'heure, hein, au moment du passage d'antenne. Vous voyez, les gens ont oublié Gertrude Bell. C'est incroyable quand on sait le rôle qu'elle a eu. Et merci aussi et surtout de nous avoir fait voyager et rêver.
Et dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de Laurent qui vous demande comment on calculait les dates avant Jésus-Christ.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez maintenant, Franck, à la question de Laurent posée via la page Facebook de l'émission et qui souhaite savoir comment étaient calculées les dates avant Jésus-Christ.
Eh bien, c'est vrai que chaque civilisation a longtemps eu son calendrier et c'est très occidental, somme toute, et relativement récent, de tout ramener de l'histoire humaine à un référent unique. Si vous prenez les Égyptiens, par exemple, eh bien, à chaque nouveau règne, on redémarrait à zéro, si je puis dire. On faisait un nouveau compte. On était la septième année du règne de Ramsès II. Etc. On a compté beaucoup comme ça aussi dans bien d'autres civilisations. Et dites-vous que la France elle-même a bien essayé de remettre les compteurs à zéro avec son calendrier républicain, son calendrier révolutionnaire. Vous savez, on était l'an 1, l'an 2, l'an 3 de la République française. On serait au 3e siècle si on avait maintenu ce calendrier. Alors, autrefois, pour répondre précisément à la question, autrefois, pour compter, on partait d'une date, par exemple la date de la fondation de Rome pour ce qui est de l'histoire romaine. La fondation de Rome, c'est 753 avant notre ère, donc là encore, on comptait à partir de cette date, bien entendu. C'est beaucoup plus tard, aux alentours de 532, je dis bien 532 de notre ère, qu'un moine italien qui s'appelait Denis le Petit va imaginer ce calendrier qui commencerait avec la naissance du Christ. Alors, il se trouve qu'il s'est un peu trompé dans ses calculs, c'est très difficile à établir du reste, hein, l'année précise de la naissance de Jésus. Il semblerait que en l'an 1, de Anno Domini, hein, de l'année du Christ, Jésus en vérité avait déjà 5 ou 6 ans. Mais enfin bon, je ferme cette parenthèse, on pourrait en reparler parce que c'est tout à fait de saison en cette période de Noël. Il faudra attendre 680 et même peut-être aux alentours de 700 de notre ère pour que Bède le Vénérable, qui était un moine anglo-saxon, remette ce décompte au goût du jour. Notez bien que l'ère chrétienne commence par l'an 1. Il n'y a pas d'an zéro, hein, bien sûr. De toute façon, à cette époque, le zéro n'existait pas.